Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 8. Nous allons lire à partir du verset 5 jusqu'au verset 17. Mais nous allons nous focaliser surtout sur les versets 12 et 14. 12 à 14. Mais lisons Romains chapitre 8 à partir du verset 5. Et voici la parole de Dieu. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Et jusque-là, la parole de Dieu. Parfois, dans la vie, on est séparé de certains membres de nos familles pour une période, parfois pour des mois, parfois même des années. Mais quand vient le temps des retrouvailles, quand on aperçoit au loin leur silhouette, leur façon de marcher, on les reconnaît. On sait qui sont ces personnes qui s'avancent vers nous. Même si ces personnes sont au milieu d'une foule, on reconnaît à leur marche. C'est la même chose pour des parents qui attendent leur enfant à la sortie de l'école, avec les enfants qui sont tous excités d'avoir terminé, d'être libérés des classes. Même là, les parents reconnaissent leur enfant. C'est la même chose pour les parents qui assistent à une compétition sportive, où les joueurs sont habillés de la même manière, parfois même avec un casque, football américain. Mais là, les parents vont détecter leur enfant à sa façon de courir, à sa façon de se comporter, à sa façon tout simplement de marcher. Et c'est la raison pour laquelle la Bible aime décrire la vie chrétienne comme une marche. Au verset 4 de ce chapitre, Paul parle de ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Et dans ce chapitre, Paul va nous présenter la marche caractéristique de la vie chrétienne, un thème qu'il va ensuite développer plus loin dans les chapitres 12 à 15. Mais dans ce chapitre, Paul nous présente cette idée que l'on devrait être capable de reconnaître un chrétien ou une chrétienne d'après sa façon de marcher, spirituellement parlant, bien entendu, d'après sa façon de vivre dans ce monde. Et ce que Paul souligne ici, c'est que la marche selon l'Esprit, étant remplie de l'Esprit de Dieu, c'est la marche du chrétien. Et cette marche est caractéristique de tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu. Et si on survolait ce chapitre, on voit que le style de vie que produit l'Esprit de Dieu est le style de vie de tous les enfants de Dieu. Il suffit de voir les termes que Paul utilise, qui sont tous en rapport avec la famille. Verset 12, Paul appelle les chrétiens des frères. Verset 14, il parle des croyants comme étant conduits par l'Esprit et ils sont les fils de Dieu. Au verset 15, il décrit ceux qui ont reçu l'Esprit d'adoption, afin que nous crions « Abba, Père ». Au verset 16, il les décrit comme les enfants de Dieu. Au verset 17, comme les héritiers de Dieu. Verset 19, il parle de la révélation des fils de Dieu. Verset 21, il parle de la liberté, de la gloire des enfants de Dieu. Verset 23, il décrit que nous attendons l'adoption, la rédemption de notre corps. Verset 29, il décrit que ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ici, Paul ne parle pas dans un sens général de la vie chrétienne, du fruit de l'esprit opposé au fruit de la chair. Il parle de la vie chrétienne comme étant une marche caractéristique de tous ceux qui font partie de la famille de Dieu. Et c'est une bonne façon de voir la vie chrétienne. Nous avons été adoptés, nous l'avons déjà souligné, adoptés hors de la famille d'Adam pour entrer dans la famille de Jésus-Christ. Et parfois, si on adopte quelqu'un à un certain âge, un âge avancé, il faut un temps pour s'habituer à la vie de la nouvelle famille. Mais petit à petit, la manière de vivre de cette nouvelle famille commence à laisser son empreinte sur nous et nous devenons de manière visible, manifeste, un membre de cette nouvelle famille. On ne doit pas oublier qu'un enfant qui est adopté a toujours les gènes de sa famille d'origine. Et parfois, il y a des moments où il veut retourner à l'ancienne manière de vivre. Les gènes de l'ancienne famille n'ont pas été détruits. Et c'est pour ça qu'il y a ce conflit que l'on a vu en Romains chapitre 7, un conflit entre l'ancien et le nouveau. Cela se passe dans la même vie chrétienne, chez la même personne. C'est le conflit de l'enfant adopté avant qu'il ne jouisse pleinement de tous les privilèges de son adoption. Il attend l'adoption finale parce que les gènes de son ancienne famille sont toujours présent. Ou pour rejoindre l'apôtre Paul dans verset 14, c'est la lutte continuelle de suivre l'Esprit de Dieu et de vivre comme les enfants de Dieu. C'est intéressant de noter que quand Paul parle d'être conduit par l'Esprit au verset 14, il ne parle pas ici d'être guidé, d'être dirigé. Beaucoup aujourd'hui de personnes utilisent l'expression dans ce sens-là. Oui, l'Esprit Saint m'a conduit à faire ceci, à faire cela. Mais ici, Paul n'a qu'une chose en tête quand il parle de vivre selon l'Esprit. C'est ce qu'il dit au verset 13 et 14. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et dans ce contexte, on peut dire que la caractéristique essentielle du croyant, c'est qu'il fasse mourir les actions du corps. Certaines anciennes versions utilisent le terme de mortification, de mettre à mort les méfaits du corps. Ce n'est pas un langage qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. On ne parle pas beaucoup de mortification du péché, parce que peut-être que ça nous fait penser à un monastère, à l'autoflagellation. Mais ce n'est pas ce dont Paul parle ici. Paul, pour son souci pratique, c'est que le chrétien traite le péché et qu'il remporte la victoire sur le péché. Et même s'il reste encore en nous le sentiment de notre immoralité, l'influence de notre péché, c'est tout de même notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Regardez le langage que Paul utilise au verset 12. De ne plus être redevable à la chair pour vivre selon la chair. Nous appartenons, dit Paul maintenant, nous appartenons à une nouvelle famille. Nous sommes redevables, nous avons une dette envers la nouvelle famille pour vivre selon sa manière de vivre. Cela veut dire qu'il faut se séparer de tout ce qui est odieux, de tout ce qui est détestable au Père, à Dieu le Père, de tout ce qui pourrait ou chercherait à gâcher le style de vie de notre nouvelle famille. Paul parle donc en un mot de la mortification du péché, mais Paul n'est pas le seul à parler de cela. Le Seigneur Jésus-Christ a aussi parlé de cela. Vous vous rappelez dans le sermon sur la montagne, en Matthieu 5 par exemple, les versets 29 et 30, « Si ton œil droit est pourtant une occasion de chute, arrache-le, jette-le au loin, loin de toi. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. » Et le Seigneur utilise un langage qui est frappant, plus frappant peut-être que l'apôtre Paul, pour décrire comment un enfant de Dieu va refuser tout ce qui pourrait nuire à la réputation de sa nouvelle famille, tout ce qui pourrait gâcher sa vie, qui pourrait gâcher sa ressemblance à cette nouvelle famille dans laquelle il a été adopté. Et c'est le Seigneur Jésus dit cela en plein milieu du sermon sur la montagne, où il parle à ses disciples du privilège d'être les enfants de Dieu, de pouvoir entrer, d'avoir un accès libre dans la présence de Dieu, d'être adopté dans la famille de Dieu, de pouvoir appeler Dieu Père. Et il ne pouvait pas être plus clair que cela. Si nous faisons partie de la famille de Dieu, nous allons nous débarrasser de tout ce qui fait du tort à la dignité de cette famille, de tout ce qui voudrait salir ce vêtement de justice que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. Ce n'est pas seulement l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas non plus le fait de connaître Dieu comme Père, mais c'est aussi ce pourquoi l'Esprit-Saint nous a été donné. Et encore une fois, on a les trois personnes de la Trinité qui sont impliquées. L'Esprit Saint nous a été donné pour une seule raison, nous rendre saints. Et si nous allons être saints, cela va impliquer dans nos vies un conflit terrible entre cette nouvelle nature que nous avons, que Dieu nous a donnée par la foi en Christ, et ce péché qui est encore en nous. Le péché ne va pas partir discrètement. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Je ne sais pas si vous trouvez l'apôtre Paul un peu frustrant dans ce qu'il dit. Il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et on voudrait dire à l'apôtre Paul, d'accord, mais tout ça c'est très bien, mais comment? Comment est-ce que je dois faire mourir les actions du corps? Et c'est là que beaucoup font l'erreur de courir vers la librairie chrétienne la plus proche ou d'aller en ligne et de choisir un livre sur la mortification du péché. Mais ce ne serait pas juste envers l'apôtre Paul de dire « Je vais me tourner vers un auteur moderne pour comprendre cette question. » Alors, arrêtons-nous sur ce que Paul dit ici. « Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. » Et on va poser la question à Paul. « Mais Paul, est-ce que tu peux nous donner des indices de ce que tu veux dire. » Et si on reste longtemps sur ce passage, si on reste longtemps avec Paul, on commence à voir dans le contexte que ce qu'il nous dit ici, ce qu'il nous donne, ce sont des indices pour justement accomplir les exhortations et vivre ce dont il parle. Et nous allons surtout nous focaliser sur le verset 13 ce matin, pour essayer de ressentir l'émotion de l'apôtre Paul et dans tout ce qu'il veut nous dire. Verset 13, « Ainsi donc, » il parle au verset 12, « Ainsi donc, frères. » Paul n'est pas quelqu'un qui, comme certains aujourd'hui, appelle tout le monde frère. Oui, frère ceci, oui, frère cela. Non, Paul n'utilise ce terme que lorsqu'il est submergé par ses émotions. C'est comme s'il nous prenait dans ses bras et qu'il vienne nous dire « Mais ceci maintenant est important pour vous, frères. Ceci est important pour vous. » Et nous allons diviser cela en trois points. D'abord, le point de départ de Paul. Ensuite, nous allons voir les motivations que Paul apporte et les directives qu'il nous prescrit. N'oublions pas ce que Paul dit ici, il le dit dans le contexte de tout ce chapitre et de tout ce passage que nous sommes en train d'étudier. Tout d'abord, donc, le point de départ de Paul. Et la première chose que Paul souligne, c'est qu'il est absolument nécessaire pour le chrétien de mettre à mort le péché. On ne peut pas vivre la vie chrétienne sans mettre à mort le péché. Si vous vivez selon la chair, au lieu de la mettre à mort, vous mourrez. C'est très simple. Soit vous décidez à mettre à mort le péché qui est dans votre cœur, soit le péché qui est dans votre cœur vous mettra à mort. Et la chose à nous rappeler aussi, et nous l'avons déjà souligné, si nous sommes chrétiens, c'est que nous ne sommes plus sous le règne du péché. Nous ne sommes plus écrasés par le péché. En prendre une image de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu, pour résumer, il y a eu le jour du débarquement, le jour où clairement la victoire était dans le camp des Alliés, et puis il y a eu le 8 mai, le jour de la victoire, où la victoire a été déclarée. Et entre ces deux jours, il y a eu des conflits, il y a eu des batailles féroces, il y a eu des douleurs, il y a eu du sang qui a été versé. Et de la même manière, le chrétien se situe aujourd'hui dans cette période entre la victoire remportée par le Seigneur Jésus-Christ à la croix et à cause de son union avec Christ, d'être délivré du règne du péché, et le jour du retour de Jésus-Christ dans la gloire. Et dans cette période, bien que le Seigneur Jésus-Christ ait remporté la victoire, le chrétien connaît des conflits. Il connaît des batailles féroces, il connaît des douleurs, il connaît des blessures profondes, des moments de défaite. Mais la fin a déjà été décidée. La victoire a déjà été remportée par le Seigneur Jésus-Christ, même si elle n'est pas encore parvenue dans toutes les zones de conflit. Et c'est ce que Paul nous dit à partir des chapitres 6 et 7 de cette lettre. Nous vivons entre ces deux moments. La victoire de Jésus-Christ dans nos vies et l'attente de la transformation totale de nos vies. Et c'est pour ça qu'il y a des conflits. Mais nous sommes dans le camp de celui qui a remporté la victoire. Et c'est pour ça que la mortification, la mise à mort du péché, ce n'est pas l'activité d'un chrétien qui connaît la défaite, qui est abattu. Non, c'est quelqu'un qui sait que le règne du péché a été brisé, que la victoire a déjà été remportée par le Seigneur Jésus-Christ. Et donc, il met à mort le péché. La deuxième chose que Paul, sur le point de départ, c'est que par la grâce de Dieu, par l'Esprit qui maintenant habite le croyant, nous pouvons mettre à mort le péché. Et c'est une chose importante à souligner, parce que Satan va très souvent souffler au cœur du croyant le message inverse. Il va dire, tu ne peux pas le faire. Ce péché est trop grand pour toi. Tu es dans une situation désespérée. Tu ne grandiras jamais dans la vie chrétienne. Et Paul affirme que puisque le règne du péché a été brisé, le chrétien est maintenant dans une position où il peut traiter ce péché, où il peut mettre à mort ce péché. Bien entendu, on ne parle pas ici de se débarrasser définitivement du péché. Dans nos vies, cela ne se passera que soit à notre mort, soit au retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais en grandissant dans la grâce, le chrétien montre que le péché ne règne pas dans sa vie. Il ne domine pas sa vie. Le chrétien vit non pas comme quelqu'un qui est vaincu par le péché, mais quelqu'un qui met à mort le péché qui est encore dans son cœur. Bien entendu, Paul présume que nous voulons mettre à mort le péché quand il écrit ces choses. Voilà le point de départ. Quelles sont les motivations que Paul nous apporte dans ce passage? La première motivation, on la voit au verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Quelle est la motivation ici? La motivation, c'est penser à la récolte. Ce qu'un homme sème, il le récolte. Et très souvent, quand on chute, quand on tombe dans un péché, la raison, c'est que nous ne nous sommes pas posé cette question. Qu'est-ce que je récolte en vivant de cette manière-là? Quel est le fruit qui sera produit dans ma vie? Et Paul nous dit, regardez, si vous vivez de cette façon, le fruit dans votre vie sera la mort. Et quand on le remarquera, ce sera trop tard pour nous de faire quoi que ce soit au sujet des conséquences de nos actes. Nous récoltons ce que nous semons. Et par nature, nous n'aimons pas, nous ne voulons pas regarder ce que le péché produit. Mais Paul nous rappelle, le péché produit la mort, la misère spirituelle. Oui, le péché, pour un temps, va promettre des plaisirs. Mais à la fin, le péché promet la mort. Nous récoltons ce que nous semons. Si nous vivons, si vous vivez selon la chair, nous dit Paul, vous mourrez. La deuxième motivation, rappelons-nous que c'est pour nos péchés que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang. Même le plus petit péché dans ma vie a exigé que le Seigneur Jésus-Christ vienne sur terre, qu'il aille sur la croix, qu'il s'écrie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et si le Seigneur Jésus-Christ n'était venu que pour un seul d'entre nous, qui n'avait péché qu'une seule fois, la réponse du ciel serait « tu as été abandonné pour le péché de sept enfants. » Si ça, ce n'est pas une motivation pour mettre à mort le péché, ce péché pour lequel Jésus a été mis à mort sur la croix, il n'y aura sans doute aucune autre motivation qui puisse m'encourager à mettre à mort le péché dans ma vie. Mais c'est ce que Paul dit au début du chapitre. Qu'est-ce qui nous rend capables de ne plus marcher selon la chair, mais de marcher selon l'esprit? C'est que Dieu a fait ce que la loi ne pouvait pas faire. Il a condamné le péché dans la chair en Jésus-Christ. Et quand on est face au péché, si on hésite entre tolérer ce péché ou mettre à mort ce péché, il faut emmener ce péché à la croix de Christ et dire à ce péché, « Voilà ce que tu as coûté à mon Sauveur. Pour quelle raison est-ce que moi, je ne te mettrai pas à mort ?» La motivation ne repose pas sur ma condition spirituelle, elle repose sur ce que Jésus-Christ a fait pour moi. Si vous voulez savoir ce que Dieu pense au sujet de votre péché, l'endroit où il faut aller, ce n'est pas le mont Sinaï où Dieu condamne le péché, mais c'est au mont du Calvaire où Dieu a traité ce péché, où il est impossible de se tenir et de dire d'un côté « Mon Jésus, je t'aime », tout en regardant son péché et de dire « Mon péché, je t'aime ». Qu'est-ce que notre péché a fait pour nous? Quel bien notre péché nous a-t-il apporté? Quelle bénédiction nous a-t-il apporté? Paul nous dit « Regardez tout cela à la lumière de ce que Jésus a fait pour nous ». Aux bénédictions que Jésus vous a apportées. C'est pour ça que Paul est perplexe dans ce passage que nous avons étudié en Romains chapitre 7, à son propre sujet. Malgré tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, malgré toutes les bénédictions qu'il apporte, je continue à pécher. Misérable que je suis, Christ m'a tout donné. Moi, je continue de traîner avec mon orgueil, avec mes convoitises, avec mes ambitions, avec mon égoïsme, misérable que je suis. Emmenons ce misérable que nous sommes, emmenons-le à la croix. Et on trouvera là la motivation pour mettre à mort le péché. La troisième motivation, Si, au lieu de mettre à mort le péché, je joue avec le péché, je suis en train de dire au Saint-Esprit qui habite en moi, quoi que tu sois venu accomplir dans ma vie, je suis décidé à faire autre chose. Il y a une illustration assez frappante de cela dans la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Il parle d'une situation innommable et il appelle les croyants à se séparer, à fuir les choses malsaines. Il parle entre autres de quelqu'un qui est allé voir, qui va voir une prostituée. Et il souligne, il dit, mais si un chrétien va voir une prostituée, le Saint-Esprit ne le quitte pas. Un chrétien ne peut pas aller voir une prostituée et dire au Saint-Esprit, attends à la porte. Et Paul pose la question, est-ce que vous allez unir le Saint-Esprit avec une prostituée? On pourrait citer tout autre péché, on peut citer l'impatience, on peut citer la colère. Quand on est en colère, on ne va pas dire au Saint-Esprit, laisse-moi pendant 5 minutes parce que je vais être en colère. Non, le chrétien qui est en colère ne doit pas oublier que l'Esprit-Saint habite en lui. C'est pour ça que Paul va écrire en Éphésiens, chapitre 4, les versets 30 à 32, « N'attristez pas le Saint-Esprit, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Voilà les motivations. Troisièmement, quelles sont les directives que Paul prescrit? On pourrait se poser la question, où sont les directives? Il n'y a pas d'impératif dans ce verset. Mais les directives sont par implication. Et la première, c'est que bien entendu, Paul nous exhorte à nous engager entièrement dans la poursuite de la sainteté. On ne peut pas choisir les péchés que l'on va mettre à mort et ceux que l'on va tolérer. On ne peut pas grandir dans la vie chrétienne à moins de mettre à mort les œuvres de la chair, quelles qu'elles soient. Et c'est pour ça que nous prions à Dieu, nous demandons à Dieu, « Mais Seigneur, rends-moi saint, rends-moi entièrement saint. » On ne peut pas garder un jardin secret dans lequel on va cultiver nos péchés préférés. C'est pour ça que Paul n'utilise pas de qualificatif. Il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il ne dit pas quelles actions du corps, parce qu'il inclut toutes les actions du corps. S'engager entièrement dans la poursuite de la sainteté. La deuxième directive, c'est le terme « vous » que Paul utilise. Si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et c'est bien un pluriel. Paul souligne ici que ce que nous faisons, nous ne le faisons pas de manière isolée. C'est quelque chose qui se passe dans le cadre de l'Église. Quand un croyant lutte contre un péché en particulier, Dieu n'a pas prévu qu'il lutte seul dans son coin, de manière isolée. Non, un chrétien va trouver un frère de confiance, une chrétienne va trouver une sœur de confiance. On va lui dire, est-ce que je peux te confier ceci? Je lutte dans ce domaine et c'est trop difficile pour moi. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce que tu peux m'encourager? Et le fait d'avoir partagé ces luttes avec un autre croyant, cela va soulager le croyant qui lutte. Mais il y a aussi une autre raison. S'il y a un mode de vie particulier et pécheur que l'on cache aux yeux des autres, on peut être sûr que Satan viendra auprès d'un tel chrétien pour lui dire « ça, c'est notre secret. Moi, je ne dirai rien et toi non plus. » Et Satan fait du chantage parce qu'il n'a rien, il n'a aucune arme honnête pour attaquer le croyant. Et si on écoute ce chantage, on va tomber dans le désespoir, dans la dépression. Mais quand on partage nos luttes avec un autre croyant de confiance, pas n'importe qui, on va dire à Satan, « Mais tu peux exposer mon péché. Mais ma justification devant Dieu ne repose pas sur la qualité de ma vie chrétienne. Je me tiens devant Dieu sur la seule base de l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. Et c'est un privilège que je partage avec d'autres pécheurs. Et le chrétien avec qui on partage nos luttes, s'il a réellement compris l'Évangile, il ne va pas nous faire la morale. Mais au contraire, il va nous prendre dans ses bras. Il va nous dire, mon frère, ma sœur, nous sommes pécheurs tous les deux. Et notre justification ne repose pas sur notre capacité à ne pas chuter. Notre justification repose sur l'œuvre, l'expiation de Jésus-Christ pour nos péchés. Et il nous a revêtus de sa justice parfaite. C'est ensemble, dans le cadre de l'Église, que nous portons les fardeaux des uns des autres et que nous avançons, que nous nous encourageons dans notre marche, dans notre vie chrétienne. La vie chrétienne est un combat, comme le titre d'un livre, un combat jusqu'à la mort. Mais elle est vécue dans le camp de la victoire de Jésus-Christ. Et Dieu nous a donné l'Esprit Saint qui habite dans le cœur du croyant. Et Dieu voulant, nous verrons le témoignage de l'Esprit Saint la semaine prochaine. Que Dieu donc nous aide à saisir, à comprendre ces choses, qui nous aide à vivre, à marcher dans ce monde d'une manière digne, à mettre à mort ce péché, non pas en allant au mont Sinaï, à la loi, mais en allant au mont du Calvaire, à la croix, en regardant à ce que Christ a fait pour nous et en comptant sur lui. Que Dieu nous aide à saisir cela et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs ce matin. Amen.